Iran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Aziz vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
A'oudhou billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas ? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés, qui croient et qui restent pieux. Il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi soir 26 avril 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous présenterons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu en Irak après avoir effectué une visite au Qatar. Le bilan de l'énorme incendie qui s'est déclenché dans un hôpital à Bagdad est passé à 82 morts et quelques 110 blessés et un dimanche sous haute tension à Mogadiscio, capitale de la Somalie. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, est arrivé lundi 26 avril en Irak après avoir effectué une visite au Qatar. Lors de sa visite de jour en Irak, le ministre iranien des Affaires étrangères rencontrera son homologue irakien et d'autres responsables de ce pays frère et ami. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a rencontré dimanche 25 avril son homologue qatari, Mohammad Al-Sani. Les deux hommes ont discuté des questions d'intérêt commun, des relations bilatérales et d'importantes évolutions régionales et internationales. Le principal négociateur iranien dans les pourparlers organisés à Vienne en vue de relancer l'accord sur le nucléaire iranien a déclaré dimanche que son pays refuserait de participer à des négociations d'attrition, a rapporté l'agence de presse officielle iranienne IRNA. La durée exacte des pourparlers ne peut pas être prévue à l'avance. Nous ne permettons pas que les négociations se transforment en pourparlers d'attrition. Si nous estimons que les autres parties ne sont pas sérieuses ou essaient juste de gagner du temps ou d'introduire de nouvelles questions dans les discussions, nous abandonnerons les négociations, a indiqué M. Abbas Al-Arti, qui dirige l'équipe de négociation iranienne dans les pourparlers en cours à Vienne avec les représentants du Royaume-Uni, de la Chine, de la France, de la Russie et de l'Allemagne. En même temps, nous ne sommes pas pressés car les négociations touchent à des problèmes graves qui doivent être examinés et discutés, a-t-il déclaré. M. Al-Arti, qui est également vice-ministre des Affaires étrangères d'Iran, a tenu ses propos après une réunion avec la Commission de la Sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien. Le haut diplomate iranien a de nouveau rejeté le plan étape par étape abandonné depuis longtemps qui visait à relancer l'accord sur le nucléaire. Il a en outre sommé les États-Unis de lever les sanctions qui visent environ 1 500 personnalités iraniennes et ce dans le cadre des efforts visant à relancer l'accord nucléaire de 2015. Le bilan de l'énorme incendie qui s'est déclenché dans un hôpital accueillant des patients atteints du coronavirus à Bagdad est passé à 82 morts et quelques 110 blessés, a annoncé dimanche le ministère irakien de l'Intérieur. L'incendie de l'hôpital Ibn al-Khatib a entraîné la mort de 82 patients et agents de santé et en a blessé 110 autres, a déclaré le porte-parole du ministère Khalid al-Mahana sur la chaîne d'information officielle irakienne Irakia.
De nombreux blessés se trouvent toujours dans un état critique, a indiqué M. Al-Mahanna. L'incident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, lorsque plusieurs bouteilles d'oxygène ont explosé, mettant le feu à l'hôpital Ibn al-Khatib. Cet établissement situé dans l'est de la capitale irakienne est dédié au traitement des patients atteints de la COVID-19. Des équipes de la protection civile et des véhicules de pompiers étaient arrivés sur les lieux pour éteindre l'incendie. Ils ont réussi à empêcher les flammes d'atteindre les étages supérieurs, indique le communiqué du ministère de l'Intérieur. Ils ont également sauvé quelques 90 patients et agents de santé qui étaient encerclés par les flammes dans le bâtiment, selon la même source. De nombreux patients ont été affectés par la coupure d'alimentation en oxygène durant leur évacuation de l'hôpital et plusieurs autres ont été étouffés par la fumée, ajoute le communiqué. Au bout de 3 jours d'affrontements avec les forces d'occupation israéliennes, les habitants de la ville Al-Rots ont finalement eu gain de cause. Dans la ville sainte Al-Rots, l'occupation israélienne a enlevé les barrages de fer qu'elle avait installés depuis le début du mois de Ramadan à Bab al-Amoud, une ruelle de la vieille ville qui mène directement vers la mosquée d'Al-Aqsa. Cette décision, qui est entrée en vigueur dans la soirée de ce dimanche 25 avril, a été fêtée par les habitants d'Al-Rots. C'est elle, Al-Rots est arabe, ont-ils scandé. Les images parvenues de l'enceinte de l'esplanade des mosquées montrent les jeunes Palestiniens en train de lever ces barrages. Les habitants d'Al-Rots s'insurgent depuis le début du mois de Ramadan contre les mesures israéliennes destinées à les empêcher de se rendre à l'esplanade des mosquées pour y effectuer la prière à différents moments de la journée de ce mois béni. Les barrages en faisaient partie. En même temps, ils sont victimes de toutes sortes d'exactions, lesquelles s'étaient intensifiées ces derniers mois pour les expulser de leur quartier situé dans la partie est de la ville sainte, en préparation à sa totale judaïsation. Les choses ont pris une tournure plus violente lorsque, dans la nuit de jeudi à vendredi, des colons extrémistes avaient manifesté devant Bab al-Amoud en escandant « à mort les Arabes ». Les Palestiniens ont alors défilé dans une manifestation de protestation à Rotsest, où la police israélienne a tiré sur eux des balles en caoutchouc et les a aspergés d'eau usée et de gaz lacrymogène. Même scène à l'aube du vendredi 23 avril lorsque des colons ont attaqué le quartier Sheikh Jarrah. À coups de pierre, les jeunes Palestiniens sont sortis pour les repousser et défendre leur quartier. Et des accrochages se sont produits avec les policiers et les militaires israéliens qui sont directement intervenus pour soutenir les colons. Il y a eu plus de 120 blessés dans la journée. Le dimanche, le mouvement Hamas a appelé les habitants d'Al-Rots à former un commandement unifié, à se mobiliser dans la vieille ville d'Al-Rots et sur ses portes et à veiller à faire la prière dans la mosquée d'Al-Aqsa. Il a aussi appelé les factions de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza à préparer leurs requêtes pour venir en aide aux Palestiniens de la ville sainte Al-Rots. Nos gens dans les villes de la Cisjordanie et de l'intérieur palestinien doivent se rendre vers la mosquée sainte Al-Aqsa, a-t-il appelé, mettant en garde contre les troupeaux de colons qui s'infiltrent dans les villages et les camps lointains. Il faut former des comités de surveillance de nuit dans toutes les régions palestiniennes, a insisté le texte du Hamas. La Syrie accuse les forces turques et leurs mercenaires de perpétrer des actes criminels contre les civils syriens. Les zones concernées du gouvernorat de Hasaké sont restées sans eau courante pendant plus de 16 jours consécutifs en dépit d'une situation sanitaire critique. La région connaît une température élevée au mois de Ramadan, ce qui a aggravé la souffrance des habitants de la ville de Hasaké et ses environs. Les militaires turcs, qui occupent de vastes pans de territoire dans le nord de la Syrie, ont coupé l'eau potable aux habitants de la ville de Hasaké et de ses environs, a annoncé le ministère syrien des Affaires étrangères. Selon Damas, des bombardements et des pilonnages entrepris par l'armée turque ont mis hors service la station d'eau potable à Alouk, qui approvisionne Hasaké à 23 reprises depuis octobre 2019. La partie syrienne appelle ainsi le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Commission internationale du Croissant Rouge à faire pression sur les autorités de l'occupation turque pour arrêter ces pratiques criminelles contre les Syriens innocents. Un dimanche sous haute tension à Mogadiscio, capitale de la Somalie. Les forces spéciales de l'armée fédérale, fidèles au président Farmajo, ont affronté des soldats mutinés, déterminés à s'opposer à la prolongation de son mandat. C'est cette prolongation de 2 ans, jugée illégale par l'opposition, qui est au cœur de la grave crise politique que traverse le pays depuis le mois de février, date à laquelle le mandat officiel du président a expiré sans la tenue d'un scrutin présidentiel. Tard dimanche soir, la situation était encore confuse. Aucun bilan n'est encore disponible sur d'éventuelles victimes. Des coups de feu ont claqué jusque tard dans la nuit à plusieurs grands carrefours de Mogadiscio. Les plus violents combats ont eu lieu en fin d'après-midi, sitôt la nuit tombée sur la capitale. Des tirs d'armes légères et de mortiers, des tirs de RPG également, ont été signalés par des habitants de plusieurs quartiers. Tout avait commencé le matin avec des manifestations de militants de l'opposition exigeant le départ du président Farmajo en présence de soldats mutinés issus d'une ancienne milice désormais versée dans l'armée régulière et arrivée des alentours dans la nuit. Le ministère algérien de la Défense a annoncé le dimanche 25 avril le démantèlement d'une cellule de militants séparatistes du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie MAK, qui projetait des attentats contre les marches du mouvement de protestation Irak. Cette cellule criminelle, démantelée le mois dernier, est composée de partisans du mouvement séparatiste MAK, organisation interdite en Algérie, selon le ministère de la Défense nationale. Ses membres sont impliqués dans la planification d'attentats et d'actes criminels lors des marches et des rassemblements populaires dans plusieurs régions du pays, a-t-il précisé dans un communiqué. Des armes de guerre et des explosifs ont été saisis lors de cette opération menée fin mars par les services de sécurité, ajoute le communiqué, qui a fait état d'une dangereuse conspiration ciblant le pays fomentée par le MAK. Le 30 mars, le parquet d'Azazgah avait annoncé l'arrestation de 5 personnes soupçonnées de projeter des actions terroristes à Tizi Ouzou et à Béjaïa, en Kabylie, lors des manifestations hebdomadaires de l'Irak. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Après la Syrie, le partenariat militaire irano-russe s'étend à l'Ukraine. Ce n'est pas uniquement en Syrie qu'Iraniens et Russes offrent à démystifier les armements US, à détromper le monde entier pour qu'ils ne dépensent pas autant d'argent à remplir les poches de Lockheed Martin sur le dos de leur nation. Après avoir mis en miettes les batteries de missiles Patriot golfiens au Yémen à travers des centaines d'attaques aux drones et aux missiles balistiques tactiques dans l'est, l'ouest et le sud du Yémen, la résistance a mis le cap sur Israël. En effet, la totale cécité des radars AN/MPQ-53 des Patriotes PAC-3 saoudiens avait été à plusieurs reprises mise sur le compte des conseillers militaires US qui avaient l'ordre de ne pas les activer parce que les États-Unis chercheraient en coulisses à affaiblir le secteur pétrolier saoudien dans la mesure où ils sont eux-mêmes un producteur du pétrole et que le fait de compter dans le camp un autre producteur de taille de l'Arabie saoudite ne va pas forcément dans leurs intérêts. Cette lecture, pour le moins pas inintelligente, tendait à s'étayer d'un autre exemple, celui de l'Irak. Un autre producteur pétrolier dont le secteur énergétique est depuis 2003 sous la férule des Américains qui en tirent les revenus et les versent sur des comptes bancaires aux États-Unis, quitte à empêcher l'État irakien d'en disposer. Mais que dire des patriotes israéliens ? Y aurait-il une certaine complicité tacite entre l'État syrien et les États-Unis quand l'armée syrienne a tiré son premier missile tactique le 21 avril contre Dimona, missile qui a percé pas moins de 12 sites de dessin pour s'abattre en sol à proximité d'une batterie de PAC-3 américaine en alerte? La réponse est évidemment négative. En effet, la technologie d'armement US-Israël bat de l'aile depuis que les Américains et leurs alliés ont malhabilement choisi la confrontation avec l'axe de la résistance et leurs déboires ont très exactement commencé un certain juin 2019 quand une batterie de missiles antimissiles Khordad 3 a magistralement abattu un drone Global Hawk RQ-4 aussitôt après qu'il ait franchi l'espace aérien du sud de l'Iran. Or, les Iraniens n'ont pas tardé à mettre main sur l'épave et à procéder à une rapide et profonde rétro-ingénierie, à la fois pour booster leur secteur de drones, mais aussi pour en profiter leurs partenaires. La Russie en est un. S'il est vrai qu'en Syrie, les avions russes, tout comme les S-300 et les S-400, ont tout fait pour que la Syrie conserve et reconstitue son arsenal balistique, dont une simple pièce, un missile Fateh-110, a suffi pour mettre sans dessous dessous Israël après s'être abattu à 30 km d'Imona, il est aussi vrai que la résistance n'a jamais cessé de rendre la monnaie de la pièce russe. Aussi en Crimée, une toute dernière information fait état de l'interception réussie d'un RQ-4 US en pleine mission de reconnaissance. Selon les données présentées, le drone a perdu de manière inattendue le contact avec les satellites et en fait est resté incontrôlé, ce qui a déclenché un retour d'urgence sur son itinéraire précédent. Le drone ayant fait un virage serré, envoyant le signal 7600 pertes de communication avant cela. Apparemment, certains spécialistes ont aidé les opérateurs de l'US Air Force à réaliser leur erreur. Il semblerait que les données fournies par les partenaires iraniens de la Russie y étaient pour beaucoup. Une chose est sûre, le partenariat militaire Iran-Russie n'a rien des alliances militaires adversaires basées sur trop de mouvements de capitaux sans être réellement bonnes au moment de combat. Et si la Russie a installé des batteries de Khordad 3 sur ses frontières avec l'Ukraine?
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Dans un discours devant le comité des services armés de la Chambre des représentants américains, le chef du commandement central américain CENTCOM, le général McKenzie, a reconnu en effet que l'Iran possède l'une des armées les plus puissantes du Moyen-Orient. Il a souligné que les capacités offensives de l'Iran comprennent des missiles balistiques à courte et longue portée ainsi que des missiles de croisière d'attaque terrestre. Le général McKenzie a affirmé que la force de missiles balistiques de l'Iran était la plus redoutable de la région. Pour le chef du CENTCOM, l'utilisation généralisée par l'Iran de drones de petite et moyenne taille signifie que les États-Unis, en effet, opèrent sans supériorité aérienne pour la première fois depuis la guerre de Corée. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cet aveu d'impuissance de l'armée américaine, mais aussi les déclarations du général McKenzie sur la politique américaine dans la région, en l'occurrence en Irak, mais aussi en Syrie. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Évoquant le déclin militaire des États-Unis, le chef du CENTCOM, McKenzie, a averti ce mardi 20 avril devant le Congrès américain que l'utilisation généralisée par l'Iran de drones de petite et moyenne taille pour la surveillance et les attaques signifie que, pour la première fois depuis la guerre de Corée, l'armée américaine opère sans supériorité aérienne totale. Le corps des gardiens de la révolution islamique CGRI d'Iran a fait publier des images totalement inouïes de l'USS Eisenhower tournées fraîchement par des drones iraniens alors que le bâtiment traverse le détroit d'Ormuz. Les images publiées mercredi montrent clairement des chasseurs américains stationnés, puis un hélicoptère de combat qui se pose sur le pont du navire sans soupçonner un seul instant qu'il se fait filmer par les Iraniens. Quelques 5000 marines et effectifs aériens en tout et pour tout qui n'ont jamais vu un drone de combat se rapprocher d'eux en pleine mer et qui ont toutes les chances d'être pris de court, un peu comme l'équipage de Hyperion Rey, le navire logistique israélien qui a été attaqué le 11 avril par un drone armé iranien alors qu'une frégate belge du nom de Léopold Ier avait pour mission de l'escorter. Doté de radars de missiles anti-navires et de canons à 4000 décharges par heure, Léopold Ier n'a rien vu venir le 11 avril, tout comme l'USS Eisenhower qui a en jugé la vidéo du CGRI est totalement aveugle. Des sources militaires russes comme Avia Pro commentant cette vidéo écrivent « De façon alarmante, aucun des navires de guerre américains ne semble avoir été au courant de l'activité clandestine se déroulant dans le ciel au-dessus d'eau. » Dans les images vidéo présentées, vous pouvez voir comment le drone iranien Shahed 191 examine avec succès le pont d'un porte-avions américain depuis les airs tout en restant inaperçu par l'armée américaine. La démonstration de ces images vidéo a frappé assez durement la réputation de l'armée américaine puisque, si nécessaire, Téhéran pourrait facilement éliminer le porte-avions avec plusieurs frappes aériennes. C'est sans doute en voyant ce genre d'image que le commandant en chef du CENTCOM a avoué mardi que la capacité des drones iraniens avait sapé la supériorité militaire américaine dans la région et que pour la première, depuis la guerre de Corée, l'US Air Force opère sans supériorité absolue dans le ciel du Moyen-Orient.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse M. le professeur Pierre Dortier, philosophe et politologue français, et depuis Bruxelles M. Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous.
Monsieur Michel, alors dans un aveu stupéfiant, le général Mackenzie, commandant en chef du CENTCOM, a premièrement reconnu les capacités militaires de la République islamique d'Iran, la capacité de la force de missiles balistiques de l'Iran et des drones, et reconnu aussi que les États-Unis en effet, opère pour la première fois depuis la guerre de Corée sans une suprématie aérienne absolue. Que signifie cet aveu d'impuissance, M. Michel? Et puis, est-ce que cela montre que, désormais, les marges de manœuvre militaires des États-Unis sont de plus en plus limitées dans la région?
Écoutez, c'est une réalité et ce n'est pas uniquement une réalité régionale. Tout d'abord, l'Iran, les Américains, les Israéliens s'étaient habitués sur une image de l'Iran qui datait de 40 ans. L'Iran aujourd'hui a émergé comme la grande puissance militaire du Proche-Orient et comme l'une des trois puissances constitutives de l'axe de l'Eurasie en marche avec Moscou et Pékin. L'Iran, c'est une grande puissance militaire avec un secteur de drones et de missiles balistiques qui rivalisent avec les Occidentaux. Mais surtout, ce à quoi nous assistons, c'est à l'entrée dans une nouvelle ère géopolitique. Le bloc américano-occidental est contesté par le bloc de l'Est, auquel appartient l'Iran, et le bloc de l'Est est en train de se constituer en contre-OTAN, en puissance militaire. Le bloc de l'Est est constitué principalement de puissance maritime, il y a la thalassocratie américaine, derrière elle, la thalassocratie française, la thalassocratie émiratie, qui est au cœur de ce qu'on appelle l'OTAN du Proche-Orient, et enfin, les thalassocraties du Pacifique, Australie et Japon, qui forment le quoi. Face à elle, maintenant, le bloc américano-occidental n'a plus la suprématie. La Russie a la suprématie en mer Noire, de la main de l'amiral Gotthaud, troisième du nom, qui est le commandant des marines américaines en Eurasie et en Afrique. C'est le militaire américain le plus élevé en grade en Eurasie. La flotte russe, elle neutralise les flottes de l'OTAN en Méditerranée. L'Iran neutralise les flottes occidentales au Proche-Orient, en particulier en mer Rouge et dans le Golfe Persique. Et enfin, on a bien entendu la Chine, dont les marines rivalisent avec la marine américaine, avec la deuxième, la cinquième flotte, notamment, et la deuxième flotte américaine dans le Pacifique. C'est terminé l'époque de la suprématie maritime. Il faut retenir quelque chose parce qu'on est au cœur de la géopolitique, c'est que la géopolitique, elle voit des puissances maritimes s'opposer à des puissances continentales depuis 2500 ans. Le premier affrontement, ça a été Rome contre Carthage. Les puissances continentales de ça vainquent les puissances maritimes que lorsqu'elles vont les contester sur la mer et les vaincre sur la mer. Qu'est-ce qui s'était passé avec Rome contre Carthage il y a 2400 ans? C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la Russie, la Chine et l'Iran. En particulier, Poutine a lancé un grand projet russe de reconstitution de flotte russe sur les 10 océans du globe comme au port de Brest et de la toute-puissance de l'Union soviétique dans les années 1970-80. C'est la fin du bloc américano-occidental comme superpuissance maritime en particulier.
Merci infiniment pour ces éclairages. Monsieur Michel, restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Toulouse pour rejoindre Monsieur le professeur Pierre Dortguier, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, Monsieur Codavandé. Bonjour à vos auditeurs. Et vraiment, une belle, une grande salutation à Monsieur Luc Michel.
Monsieur le professeur, le général Mackenzie a tenu des déclarations sur, a reconnu plutôt en effet les capacités militaires, balistiques et défensives de la République islamique d'Iran. Il a tenu en effet ses propos en pleine négociation à Vienne sur la relance de l'accord nucléaire. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir du timing de ces déclarations, monsieur le professeur?
Eh bien, en effet, il y a une corrélation entre les négociations nucléaires ou le rappel de ces négociations et la déclaration donc de la stratégique, si je puis dire, de cette personnalité militaire américaine. Cela signifie que on ne peut plus donner, c'est la renonciation, si je puis dire, de la part des Américains à une pression sur l'Iran, c'est-à-dire une manière, disons, de prendre du recul pour ne pas, disons, avoir envers votre pays, votre patrie, disons, un ton supérieur dominateur. Et donc de voir les choses, comme dit De Gaulle, comme elles sont, et non pas comme on voudrait qu'elles soient. Je crois que là, c'est une sorte de réalisme que les spécialistes, je dirais, la technique américaine, les militaires américains, imposent à leur pouvoir et à ceux qui veulent diriger, qui entreprennent de diriger la politique extérieure américaine, dont on sait bien sûr qu'elles vont de milieu israélien à d'autres. Mais enfin, disons, ces politiques seront obligées de se plier à cette nouvelle donne qu'a expliqué M. Luc Michel, et en particulier, je redis que ce qui vient d'être dit sur la thalassocratie était très juste, elle me rappelle justement ce que disait M. Michel, ne me contredira pas certainement, ce que disait Jean Kiria autrefois, dans les colonnes de l'Europe réelle. Je crois que là, c'est une autre vision du monde qui intervient et qui, naturellement, M. Codabandé, va changer l'état d'esprit de ceux qui, par exemple, après notre président, mettons, et voulaient mêler aux accords de Vienne des dispositions sur la diminution des engins balistiques et autres de l'Iran. Tout ceci, bien sûr, est dépassé. Est dépassé par la qualité technique, justement, qu'offre l'Iran, voyez-vous. Je crois que là, il s'agit d'un recul des données stratégiques, si je suis clair, sur lesquelles se basaient les Occidentaux, se fondaient nos puissances occidentales, disons, pour pouvoir intimider le bloc oriental, car à travers, bien sûr, l'Iran, ce n'est pas simplement une affaire personnelle, l'affaire d'un pays seulement, c'est l'ensemble du bloc oriental. Et je dois dire que c'est une donnée nouvelle, c'est un aveu en tout cas qui est positif, un aveu qui est réaliste. Et je crois que ceci pourrait, amener un changement complet de stratégie de la part des Américains. Nos Occidentaux, nos propres pays occidentaux ne font que suivre ce point de vue. Ils n'ont absolument aucune autonomie en la matière. Ils ne l'ont pas pour la bonne raison que nous sommes, trop affaiblis sur le plan économique. L'Allemagne ne peut pas avoir d'autorité là-dessus non plus à cause de son rôle politique, n'est-ce pas, qui diminue depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais je crois que notre politique française, par exemple, puisque nous nous adressons à des francophones, va certainement devoir changer, d'arrogance envers l'Iran.
Merci pour ces éclairages, monsieur le professeur. Restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Michel, dans quelle mesure cet aveu réaliste, ce changement de don géostratégique, pourrait modifier et changer le cours des négociations nucléaires à Vienne?
Je voudrais tout d'abord saluer le professeur Dourtipier pour ce qu'il vient de dire du grand géopoliticien Jean Thiriard. Jean Thiriard a été qualifié de Belge préféré de Poutine par le journal belge de Standard. J'étais son bras droit dans les années 1980 et j'ai succédé à la tête de son organisation politique qui s'appelait le Parti communautaire européen dans les années 60, qui s'appelle aujourd'hui le Parti communautaire national eurasien. Thiriard, c'est l'homme qui avait justement introduit dans la géopolitique cette façon de concevoir que la seule façon de vaincre l'Amérique, c'était de répondre à la thalassocratie américaine. Les négociations de Vienne, évidemment, l'Iran va les aborder en position de force, mais l'Iran est en position de force dans tout le Proche-Orient. Nous avons, au cours de la précédente guerre froide, assisté dans les années 80 à ce qu'on appelait la parité stratégique entre l'époque l'Union soviétique et la Syrie face aux Américains et à Israël. Il y a une nouvelle parité stratégique entre la Russie et l'axe de la résistance, dont le cœur est l'Iran. Cette parité stratégique, elle s'impose au camp occidental. Ça va avoir des conséquences dans les négociations de Vienne, parce que, bien entendu, l'Iran, comme je le dis, est en position de force avec ses alliés russes et chinois. Mais surtout, ça a des conséquences sur la France. La France, en effet, depuis un an, elle se repose comme une grande puissance maritime principalement. Il y a eu la sortie du livre de l'amiral Coldefy. L'amiral Coldefy, qui est un des principaux géostratèges français, c'était le commandant du Charles de Gaulle, c'est maintenant le responsable des relations internationales de la marine française. Il vise à faire de la France une grande puissance maritime, appuyée sur les Émiratis et sur les Américains, et notamment sur le domaine maritime de la France, qui est le deuxième domaine mondial de 10 000 km², grâce à ce qu'on appelle les confettis de l'Empire, les petits territoires que la France a gardés lors de la décolonisation, comme Mayotte ou par exemple la Guyane française. La France, évidemment, elle a basé toute sa stratégie sur la domination de la mer Rouge et du Golfe Persique en alliance avec les Émiratis et les Américains. Et c'est la raison pour laquelle elle a cette posture agressive vis-à-vis de l'Iran dans les négociations de Vienne. Depuis le début, lorsque Trump a quitté la négociation, la France a appuyé le point de vue de Trump. C'est-à-dire que l'Iran devait renégocier son secteur balistique qui lui assure la parité stratégique, justement. La France, qui voit l'Iran fait juridique avec la toute-puissance maritime américaine, c'est l'échec de la stratégie française et ça va, comme on dit, rabattre les prétentions de la France à Vienne. C'est cela qu'il faut retenir. Il faut enfin dire une dernière chose, c'est que en Afrique, par exemple, la Russie vient à l'aide d'États qui sont des États au bord de la faillite. Elle aide à reconstruire ces États, elle aide à reconstruire leur armée, mais elle apporte sa technique, sa supériorité stratégique et militaire. Dans le cas de ce qui se passe en Eurasie, l'Iran, ce n'est pas un État de second ordre, c'est une puissance de premier rang, avec une puissance militaire. Il y a un secteur militaro-industriel de premier plan. Et bien entendu, ce qui se passe en Eurasie, ce n'est pas ce qui se passe en Afrique. La Russie et la Chine reconnaissent dans l'Iran leur partenaire égal.
Merci infiniment. Une toute dernière question à M. le professeur d'Ortillier. M. le professeur, les acquis de la République islamique d'Iran, notamment dans le secteur militaro-industriel, ont été obtenus en pleine sanction américaine. Donc là, il s'agit d'un savoir-faire militaire, défensif et technologique indigène. Cela montre, bien entendu, que la stratégie de pression maximale de l'administration américaine à l'encontre de l'Iran a échoué, premièrement. Et deuxièmement, que le temps est venu pour que les États-Unis reviennent en effet sur leurs ambitions et sur leur politique anti-iranienne. Ceci étant dit, à quel scénario faudrait-il s'attendre, M. d'Ortigia?
Eh bien, avant de parler du problème de fond ou de la technique que vous avez soulevé, je crois qu'il faudrait s'attendre à ce que les Américains laissent passer les élections iraniennes, les élections présidentielles iraniennes futures, pour pouvoir, disons, comprendre leur stratégie. Il faut s'attendre à ce que les Américains mettent entre parenthèses tous les projets de pression sur l'Iran et les mettent en sommeil en attendant de pouvoir mesurer leur attitude politique envers la nouvelle administration. Je veux dire nouvelle administration chef présidentielle, bien sûr. Je crois que ça, c'est un point important aussi. Ce n'est pas pour rien que cette déclaration stratégique américaine intervient dans ce contexte. Mais au-delà de la politique, je dis bien au-delà de la politique, indépendamment de la politique, il y a ce problème technique que je voudrais dire en quelques mots. C'est lui qui a permis ce progrès technique, cette volonté technique qui a permis ce triomphe de l'Iran et le triomphe même d'autres nations déjà qui ont voulu se mesurer avec des puissances arrogantes qui prétendaient avoir une capacité mondiale. Bon, cela remonte au début même de la guerre de 14-18, vous voyez, entre l'Angleterre et l'Allemagne. Je crois qu'il y a eu cette loi, de la supériorité, de la puissance technique, de la force humaine, contre des fantômes, qui tiennent non pas à une force réelle, mais également à des points de vue, de possession, à des étendues. C'est-à-dire que on ne peut pas, le temps est une affaire technique. C'est dans le temps qu'on mûrit ces réalisations. Le reste est de l'espace. Et le temps, de ce point de vue, est supérieur à l'espace. Je crois qu'il faut le dire. Et ça, c'est une grande leçon. Une grande leçon, même pour les voisins de l'Iran. Pour une grande leçon pour les pays syriens, libyens, libanais, ça, qui ont été attaqués, qui ont été ruinés. Il faut que cette génération qui vit là-bas comprenne bien qu'il y a un exemple à tirer de l'Iran. C'est dans cette sorte de blocus qui lui était imposé, il y a eu une sorte de recueillement sur soi-même, si je puis dire, et ce recueillement sur soi-même a donné l'énergie que reconnaît aujourd'hui justement le commandement américain. Et je crois que ça, c'est un modèle pour le monde, un modèle pour la France aussi, vous savez. Nous ne devons plus vivre chez nous sur des acquis coloniaux ou néocoloniaux. Nous devons vivre sur une force interne. Et tout ceci implique une éducation. Je dirais même entre nous, implique une religion. Je le crois aussi. Et je ne peux que, reprendre ce qu'a dit M. Michel sur cette puissance de la cette défaite de la thalassocratie contre justement des pays qui oppose liberté humaine, si je puis dire, à une sorte de, de, de statu quo, voyez-vous, sur lequel naissent, fleurissent les impérialismes. Mais les impérialismes, voyez-vous, sont limités justement par la force, la décision et l'énergie humaine qui leur est opposée.
Et un tout dernier mot, Monsieur d'Ortiguier, sur justement la déclaration de ce haut gradé américain met également en exergue le renforcement de la position régionale de la République islamique d'Iran, n'est-ce pas?
Ah, bien sûr, c'est tout à fait. C'est de la part des autorités américaines, ce n'est pas simplement un jugement du moment. C'est un diagnostic, comme on dirait en médecine, un diagnostic et qui naturellement est suivi d'un pronostic. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus agir désormais envers l'Iran comme nous l'avons fait précédemment.
Monsieur le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue français depuis Toulouse, Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Iran, pays des merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Dans cette émission, nous entendons vous emmener pour quelques moments dans la ville d'Ispahan et vous faire découvrir ses divers monuments et lieux touristiques. Parmi les nombreux sites et monuments historiques et touristiques de la belle ville d'Ispahan, on peut citer tout d'abord la mosquée Jame ou la mosquée du Vendredi, qui est aussi appelée Grand Mosquée ou Vieille Mosquée par opposition à la mosquée du Shah. Elle a été édifiée à partir du Xe siècle, souvent revisitée au cours du temps et en particulier sous les Safavides, elle est reliée à la nouvelle ville via le Grand Bazar. La Grande Mosquée est l'une des architectures les plus complexes des arts de l'islam. Des fouilles archéologiques ont montré que, dès la période bouillite, il existait une mosquée de plan hypostyle à l'emplacement actuel de l'édifice. Actuellement, la mosquée suit le plan iranien à 4 iwans avec une salle de prière sous coupole qui devait à l'origine être séparée de l'ensemble architectural. Bordée d'arcades sur deux niveaux, elle est entourée de multiples petites salles sous coupolettes. Un autre site très connu d'Ispahan est la place Naqshe Jahan. Elle est une des plus grandes places du monde avec une longueur de 500 mètres et une largeur de 160 mètres. Elle date de 1612 et a été conçue par Shah Abbas Ier. Elle servait à l'origine de terrain de polo et de terrain de présentation des troupes militaires, événement auquel le Shah et la cour pouvaient assister depuis la terrasse du palais Ali Rapu. Dans des galeries entourant cette place sont installées des échoppes de commerçants et d'artisans. Elle est maintenant aménagée en place publique avec pelouse, bassin et allées. Autour de la place, aux quatre points cardinaux, se situent quatre bâtiments. la mosquée de l'imam, aussi appelée mosquée du chat, la mosquée du Cheikh Lotfollah, le palais Ali Rapou et le bazar. Un souterrain existait entre le palais Ali Rapou et la mosquée du Cheikh Lotfollah, permettant aux femmes d'aller à la mosquée sans être vues, d'où le nom de mosquée des femmes qu'on lui donne parfois. Dans la ville, on remarque aussi des palais safavides, entre autres le palais Cheikh Sotoun ou le palais aux 40 colonnes. Le palais Cheikh Sotoun, ou le palais aux 40 colonnes, est un palais royal safavide au nord-ouest du complexe Ali Rapou. Mesurant 57,80 mètres sur 37 mètres, ce monument majeur du règne de Shah Abbas II était utilisé pour les cérémonies de couronnement et pour la réception des ambassadeurs étrangers. Le palais est situé au milieu d'un jardin qui faisait à l'origine 7 hectares, situé entre le Meydan et Shah, place Nakhch-e-Jahan, et le Chaharbagh. À l'est, s'étend un long bassin, 115 mètres sur 16 mètres environ, dans lequel il se reflète. Ce bâtiment, dont la datation reste très discutée, a sans doute été élevé sous le règne de Shah Abbas II, puis redécoré dans les années 1870. Selon un poème inscrit sur l'édifice et un autre de Muhammad Ali Sahib Tabrizi, il aurait été créé en 1647-1648, et si certains chercheurs pensent que cet édifice a été construit en plusieurs étapes, la plupart inclinent à penser qu'il fut construit en un seul jet, car il est assez cohérent. Il s'agit d'un édifice rectangulaire comportant 20 colonnes qui se reflètent dans le bassin faisant face au bâtiment. Cheikh Sotoun signifie 40 colonnes en persan. Dans ce palais, Shah Abbas II et ses successeurs recevaient les dignitaires et les ambassadeurs sur la terrasse ou dans un des halls de réception. Le Cheikh Sotoun est décoré de grandes peintures historiques exaltant la magnanimité ou le courage guerrier des différents grands souverains de la dynastie. Un autre palais célèbre d'Ispahan est le palais Hasht Behesht ou le palais des Vies Paradis. Le Hasht Behesht est constitué d'un pavillon comportant 8 petites entités disposées autour d'une grande salle sous coupole à 4 ivans. De petites voûtes couronnent les salles secondaires décorées de miroirs qui rendent les surfaces mouvantes. Le décor extérieur en céramique est remarquable par l'emploi extensif du jaune. On situe cet édifice dans les années 1671. L'un des monuments historiques de la ville d'Ispahan est la Madresseye Shah Hossein, qui se trouve sur le Chaharbagh et est datée de 1706-1714, sous le règne de Shah Sultan Hossein. Elle n'apporte aucune nouveauté architecturale. Un plan à 4 ivans et un dôme rappelant la mosquée de Shah constituent la majeure partie de ses éléments architectoniques. Le décor, très géométrisé, est par contre un jeu différent des décors du XVIIe siècle par une palette où dominent le jaune, le vert et l'or et un réseau végétal plus dense que dans la mosquée du Shah. La ville d'Ispahan est célèbre, entre autres, pour ses magnifiques ponts. Le plus ancien pont date de l'époque seljoukide, sur les fondations d'un pont d'époque sassanide. Les autres datent de l'époque safavide. Le pont Alaverdikhan, aussi appelé pont aux 33 arches, Siosepol en persan, a été érigé sur ordre du premier ministre géorgien de Shah Abbas, Alaverdikhan, vers 1608. Il se place dans la continuité du Chaharbagh. Avec ses arcades sur les côtes et sur la base, il offre ainsi une possibilité de promenade à plusieurs niveaux, selon la hauteur de l'eau. Il sert évidemment de lieu de passage, mais aussi de barrage pour réguler le cours de la rivière. En le traversant, le produit a un effet de grande fontaine grâce aux emmarchements. À côté se trouve un talar, le kiosque des miroirs, d'où le souverain pouvait observer la rivière. Le pont barrage Khajou sur la rivière Zayandé est le deuxième grand pont d'Ispahan, édifié 50 ans après le pont à Lahverdi Khan. Il présente une structure identique et légèrement complexifiée avec des brise-flots en éventail permettant des effets d'eau plus spectaculaires. Il est doté de 23 arches pour une longueur de 105 mètres et une largeur de 14 mètres. Minar Djampan ou le minaret mouvant est une curiosité architecturale d'Ispahan. Un Ivan surmonté de deux minarets a été érigé au-dessus de la tombe de Amou Abdullah Sorla, un ermite enterré là au début du XIVe siècle. L'Ivan mesure 10 mètres de haut sur 10 mètres large. Les minarets le dépassent de 7 mètres pour 4 mètres de circonférence. Les minarets datent a priori de l'époque safavite. Ces minarets ont une particularité architecturale qui explique le nom de l'édifice. Quand on s'appuie sur le paroi d'un des minarets pour le faire remuer, le second se met à bouger simultanément, comme cela peut être constaté à vue d'œil. Des spécialistes pensent que cette particularité est due à certaines propriétés des dimensions du bâtiment ainsi qu'aux poutres de bois de la base des minarets. Cependant, l'abondance des touristes qui veulent vérifier le phénomène met en danger l'édifice. Depuis quelques années, la mise en branle des minarets est exclusivement effectuée par le personnel d'accueil et n'a lieu que toutes les demi-heures au maximum.
Thank you.